Avoir raison avec Paul Virilio. Son nom ne vous dit peut-être rien, Paul Virilio. Pourtant, chaque réflexion que vous avez, chaque discussion que vous partagez, chaque jour que vous vivez, oui, a quelque chose à voir avec lui. Le sentiment que tout va trop vite concourt à la catastrophe, que tout le monde devient trop global, que l'histoire s'étiole ou que monter un escalier est parfois, souvent même, la chose la plus absurde du monde. Parfois, les mots manquent pour décrire ces impressions sur une époque qui nous échappe. Et le nom de Paul Virilio aussi. Disparu il y a 3 ans, le philosophe, architecte, sociologue, urbaniste, d'abord maître verrier, a pourtant su les dire et les redire, les formuler et les reformuler. Plus de 40 livres sur la vitesse, l'espace, l'accident, l'information ou les bunkers, car oui, tout commence avec les bunkers, la guerre et des formes obliques. Aujourd'hui, premier épisode, Paul Virilio, architecte oblique.
Je suis d'un milieu très pauvre et donc je cherche ma voie et très vite finalement c'est l'architecture qui va m'attirer. Pourquoi ? Parce que je suis un enfant de la guerre et quelque part la destruction d'une ville comme Nantes ou d'autres a été pour moi une sorte de révélation de la relativité du cadre bâti. Et à partir de là, on a envie de travailler à la résistance, mais à la résistance architectonique, c'est-à-dire à ce qui tient, à ce qui dure, la ville, la cité.
Bonjour Frédéric Miguérou.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint du Musée national d'art moderne, centre Georges Pompidou, professeur à la chaire d'architecture, pardon pour mon anglais, à la Bartlett School of Architecture, donc à Londres. Vous avez dirigé l'ouvrage collectif Nevers, architecture principe, Claude Parent, Paul Virilio paru en 2010, ainsi que la réédition Architecture principe en 1997. On vient d'entendre la voix de Paul Virilio, c'était en 2004 sur France Culture. On y entend son attachement à ce qui tient, à ce qui résiste. Est-ce que c'est une bonne manière d'entrer dans l'œuvre de Paul Virilio, de passer par ce qui résiste, ce qui tient ?
Sans doute, bien que le travail de Virilio est d'abord une critique des formes d'inscription, de fondation. C'est quelqu'un qui va essayer de penser l'espace différemment. D'abord comme, disons, maître verrier, il va collaborer avec de nombreux artistes, comme Poliakov, Ubach, Bissière. Il va travailler d'ailleurs sur des chantiers de la chapelle de Vence de Matisse, et de Braque à Varangeville. Et puis ce travail sur l'espace va l'amener à s'ouvrir, et il va suivre les cours de la Sorbonne, et découvrir la phénoménologie avec Merleau-Ponty, il va découvrir la physique avec De Broglie, il suit les cours de René Thom, et surtout ceux de Jean Val qui est un personnage très important, puisque c'est lui qui amène une lecture en France de Heidegger, de Husserl, et puis de Nietzsche, avec la rélecture des pensées de Nietzsche de 1889, qui seront très influentes pour Gilles Deleuze.
Est-ce que vous présenteriez Paul Virilio comme un architecte, philosophe ? Enfin, quel est le qualificatif pour le décrire au mieux ? C'est très difficile quand on présente Paul Virilio de le présenter précisément.
C'est bien sûr un philosophe, c'est quelqu'un qui a une capacité d'assimilation considérable, puisqu'il va transfigurer sa vision phénoménologique en devenant architecte, en s'associant avec Claude Parent. Mais d'abord, il va être peintre, il va expérimenter ce qu'il appelle des antiformes, qu'il va exposer dans une galerie, qu'il dirige d'ailleurs à un certain moment. Ces antiformes, elles répondent à l'idée d'antimatière qu'on trouve chez le physicien Paul Dirac, et elles sont aussi... L'idée d'antiforme, c'est aussi la partie négative, enfin l'aspect du négatif qui va transparaître aussi dans toute son œuvre à partir de 1958, quand il va découvrir les bunkers du mur de l'Atlantique. Hein, c'est à partir de ce moment-là. Et il devient aussi photographe. Virilio est photographe, il travaille avec des appareils professionnels, il fait développer ses photos professionnellement, et ses photos des bunkers du mur de l'Atlantique sont une première tentative d'archéologie industrielle industriel avant les disons ce que feront les Berndt et Hilla Bécher un peu plus tardivement. Donc il a vraiment une vision polymorphe, hein. Donc il est philosophe, mais il est aussi photographe, il est lié aux artistes, et puis il va devenir architecte en rencontrant Claude Parent.
Est-ce que vous diriez, Frédéric Miguérou, que la pensée de Paul Virilio, hein, qu'on connaît peu en fait, dont le nom peut-être circuler, en tout cas plus dans les pays anglo-saxons qu'en France, et malgré cette absence, ce nom qui est peu connu, en fait, ces thèses imprègnent toutes nos discussions, tout notre quotidien. C'est une pensée qui est spatiale, c'est une pensée du quotidien, c'est une pensée sur la manière d'habiter le monde, c'est une pensée aussi des technologies, de la vitesse. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le nom de Paul Virilio est trop peu connu par rapport à l'importance de ses thèses ?
Il est trop peu connu, mais il est bien connu. C'est-à-dire, quand il collabore à la revue Traverse, il a avant travaillé pour une autre revue qui s'appelle donc liée aux Lettres Nouvelles, qui est Cause Commune, et il travaille avec Pérec, Georges Pérec, enfin, et pour la revue Traverse, il collabore avec Jean Baudrillard, et le nom de Paul Virilio est quand même, je dirais, très 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 reconnu comme philosophe. Donc c'est plus son passage comme architecte qui est moins connu, que j'ai essayé de montrer quelle était la généalogie de son œuvre, et sa pensée contemporaine effectivement lui a ouvert une reconnaissance par ce qu'on appelle les media studies aux États-Unis, c'est-à-dire tout ce mouvement de sociologie disons des médias. Qu'il anticipe quelque part dans ses écrits.
Alors on est au cœur là de la pensée de Paul Virilio, Frédéric Miguérou. Vous avez donné le terme d'architecture, on a parlé d'architecture oblique, pourtant vous avez dit que c'est un passage qui est moins connu dans sa pensée. À quoi ça peut ressembler une pensée architecturale ou une pensée de l'architecture ?
Virilio est certainement l'un des premiers qui va, contre le modernisme, l'idée de table rase traditionnelle, amener une pensée topologique de l'espace.
Qu'est-ce que ça veut dire une pensée topologique de l'espace ? Parce que l'espace, a priori, est toujours topologique, il passe toujours par des lieux.
Oui, mais il va imaginer une espèce de continuité de l'espace. C'est pas un espace abstrait, hein, donc il invente des mots, hein, comme des mots valises qui sont permanents de son œuvre. L'idée de topotonique, d'instabilisation, d'implicite. Il pense que le corps est lui fondateur de l'espace. Donc c'est le corps qui engage l'espace. Donc ils vont essayer de penser avec l'oblique des systèmes de pente pour qu'on puisse, disons, repenser l'espace à partir de son corps. Il faut pas oublier que Virilio est aussi très influencé par ce qui s'appelle la Gestalt théorie, les théories de la forme, d'où son travail sur les antiformes. Et cette idée de Gestalt, c'est de cognition, de pensée de l'espace, donc de mettre en forme l'espace à partir de son corps. Et de sa perception seront fondamentales dans toute son œuvre, d'où des textes comme Logistique de la perception, La critique des médias, où il y a cette idée de détachement du corps, hein, d'abstraction liée à la médiatisation en général, hein, tous les systèmes, que ce soit la virtualité ou les systèmes informatiques, qui pour lui amènent à un désengagement du corps. Or le corps reste central absolument dans son œuvre. Ce n'est pas le corps du modulor de Le Corbusier, c'est une pensée cognitive de la perception.
C'est là où on retrouve l'influence peut-être de Merleau-Ponty et de sa phénoménologie. C'est le corps qui va rassembler, qui va être le cœur de toute l'œuvre de Paul Virilio.
Oui, sans doute. Merleau-Ponty, je dirais, et Jean Val. Merleau-Ponty, vraiment comme philosophe affirmé, et Jean Val comme passeur. C'est pour moi le point central. Il y a un aspect phénoménologique chez Virilio qui est paradoxalement qui va croiser ses lectures des situationnistes, ce que m'a plusieurs fois dit Claude Parent.
Donc Claude Parent, l'architecte lequel a collaboré Paul Virilio.
Voilà, avec lequel il travaille comme architecte. Hein, ils vont réaliser évidemment la fameuse église de Sainte-Bernadette, mais aussi d'autres projets expérimentaux comme Charleville. Et ils vont créer ce qui s'appelle l'instabilisateur pendulaire, c'est-à-dire deux espaces inclinés dans lesquels ils pensaient s'enfermer indépendamment l'un de l'autre pendant 6 mois pour voir comment la pente, l'oblique, pouvait changer complètement l'idée de perception de l'espace. Donc il y avait vraiment, c'est encore issu de la ce qu'on appelle la Gestalt théorie de théoriciens comme Kurt Kafka qui seront très influents pour Virilio. Mais il croise aussi les situationnistes avec une autre idée de la ville, l'idée de déplacement, d'errance dans la ville, de percevoir la cité dans l'idée de collectivité de façon différente, et qui seront aussi tout à fait fondateurs pour amener à une théorie critique. Et moi, je voudrais me poser la question de la relation de Virilio avec des philosophes comme Walter Benjamin, qu'il a sans doute lu, puisqu'il a été publié aux Lettres Nouvelles dès le début des années 70, et puis sans doute des théoriciens de l'école de Francfort sur l'idée de négatif, de dialectique négative. Un penseur comme Adorno était lui aussi très influencé par Husserl au début de sa carrière. Donc la pensée critique de Virilio, qui est vraiment sa spécificité, par rapport à Claude Parent, pour moi, elle s'ancre, disons, entre phénoménologie et une certaine critique du marxisme, avec cette idée d'une dialectique négative, suspendue, qu'on retrouve vraiment dans le corps de son œuvre. Des textes comme L'horizon négatif, par exemple, sont tout à fait parlants. Et cette idée aussi qu'on retrouve dans l'église de Sainte-Bernadette, de faire avouer à la société ses propres contradictions. Faire une église en forme de bunker.
Voilà, il faut que vous nous la décriviez parce que ou que les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent fassent une petite recherche sur leur moteur internet. Peut-être que Paul Virilio aurait critiqué le fait d'avoir instantanément accès à une photo de cette église, mais effectivement l'église, il faut que vous nous la décriviez. Elle est, on dirait un bloc gris. Effectivement, il ressemble à un bunker et elle est déstructurée, à la fois déstructurée et arrondie.
Je voudrais revenir sur quelque chose qui est fondamental. Dans l'entretien qui démarrait votre émission, Paul Virilio disait « Je viens d'un milieu très pauvre ». Son père était communiste et sa mère était catholique. Et il va rencontrer en 1950 un prêtre ouvrier qui sera très influent sur lui. Et il va rester catholique, fondamentalement catholique, toute sa vie. Donc c'est un étrange catholique, situationniste, très engagé politiquement. Et quand il va penser l'église de Sainte-Bernadette, il va essayer de faire avouer à la société ses propres contradictions. Faire une église en forme de bunker, un bunker cassé en deux, avec deux plans inclinés, au centre de la France, où il n'y a jamais eu de bunker, c'est pas le mur de l'Atlantique, c'est une façon de retrouver une architecture cryptique, à la fois la fondation de ce qu'est l'idée d'église, hein, c'est-à-dire un lieu de spiritualité, un lieu
un ouvert refuge
à la cognition, à repli sur soi, et puis aussi un lieu qui parle socialement de ce que doit être une église, disons, dans un monde chaotique, hein, donc un monde où la guerre est omniprésente.
Il y a un paradoxe quand on regarde cette église, Frédéric Miguerou, c'est que d'un côté, elle nous pose question, c'est-à-dire qu'elle s'oppose, elle tranche avec le paysage, elle nous désoriente. On a l'impression que c'était l'intention à l'œuvre pour Paul Virilio et aussi Claude Parent, en fait, de désorienter, en fait, peut-être de choquer, peut-être même de dégoûter, de trancher avec des normes de goût et de beauté. Et en même temps, cette désorientation, on sent aussi que Paul Virilio l'a condamne dans notre société. Par exemple, la désorientation, on va y revenir toute cette semaine, hein, mais sur la vitesse, que produit la vitesse, que produisent les nouvelles technologies, que produisent aussi que produit aussi la mondialisation. Quel est ce rapport à la désorientation qui se produit à la fois quand on regarde et quand on lit les œuvres de Paul Virilio, mais cette désorientation aussi structurelle à l'œuvre dans nos sociétés qu'il condamnait?
C'est tout le paradoxe de Virilio. D'un côté, il y a l'aspect du mouvement, du corps. Donc, quand ils font avec Claude Parent, ils inventent les inclicites. C'est la dynamique du corps qui s'oppose à la statique de l'architecture moderne traditionnelle, enfin, l'architecture moderniste. Et de l'autre côté, ils s'opposent aussi à l'idée de vitesse, c'est-à-dire à une perte d'un rapport au sol, à une ontologie, disons, du rapport au sol. Donc, c'est le corps en mouvement qui est important et qui s'oppose à la disons, à l'abstraction moderniste de l'espace, mais qui s'oppose aussi à ce qu'est cette ultime abstraction qui est celui d'un désenracinement du rapport, de la relation du corps au sol. Et c'est cette ambiguïté qui est permanente dans l'œuvre de Virilio. Donc l'église est à la fois une crypte, c'est un lieu inscrit où le corps est disons central, le corps et la spiritualité, et en même temps effectivement l'Église parle de la guerre, elle parle disons d'une guerre de territoire, hein, ce qu'il appelle dans l'insécurité du territoire, c'est-à-dire où le rapport à l'espace a complètement changé avec évidemment les grands moyens de transport, la communication, enfin ce qu'il appelait, il donne un triptyque, il dit transport, transmission, transplantation. Donc c'est la société contemporaine et évidemment une société où les transports ont été multipliés, les transmissions jusqu'à évidemment l'internet, les systèmes cyber, le cyberespace, et puis transplantation pour lui, ce qui est l'apogée de ce système, qui est l'hybridation des corps, c'est-à-dire l'hybridation avec transplantation, puis évidemment l'aspect génétique de la transformation.
Je dois dire d'abord que nous sommes pour une architecture sensuelle, sensuelle dans le sens le plus immédiat, c'est-à-dire une architecture qui concerne l'homme directement, et la façon la plus simple de concerner l'homme, c'est par les pieds. Le moyen de l'architecture, c'est les pieds. C'est assez étonnant de dire ça, mais c'est vrai. Donc il est évident que la marche, le déplacement de l'homme devient une chose pour nous très importante. D'autre part, je pense qu'on a perdu avec la civilisation industrielle, avec les déplacements en voiture, avec les moyens de transport mécaniques, on a perdu le côté tactile du sol. On a perdu les qualités sensuelles, d'ailleurs pas seulement celle-là, on en a perdu beaucoup d'autres. Mais en particulier, puisqu'on parle de celle-là, on a perdu la qualité tactile du pied. Et je crois qu'à partir du moment où nous allons accéder à ce monde de la suspension à travers les voyages aériens, à travers les parcours dans l'espace même cosmique, on va réinventer cette qualité tactile. On va y trouver un certain plaisir. Par exemple, quand vous regardez aux actualités Glenn ou je ne sais quel cosmonaute reprendre pied sur le pont d'un porte-avions sortant de sa capsule, il y a une jouissance physique dans le fait de fouler au pied un sol. C'est quelque chose qui est très important, comme sentir des fleurs ou je ne sais pas moi, quelque chose d'aussi important. Mais nous, on l'a oublié parce que c'était la totalité de notre vie de marcher, ça devenait même une contrainte. À partir du moment où on est de plus en plus abstrait, de plus en plus en suspension, le sol reprend sa qualité. Et nous voulons justement que l'architecture soit cette espèce de praticable qui met en scène la marche de l'homme, d'une manière vraiment... Dans le fond, c'est ça pour nous l'architecture, c'est la qualité du déplacement. Quand un habitant se déplace dans nos maisons, la manière de marcher lui crée une vie meilleure.
On vient d'entendre la voix de Paul Virilio, c'était dans l'émission, attention, c'est un très beau titre, Journal d'un honnête homme, c'était une émission diffusée sur France Culture en 1967. Paul Virilio y parle aux côtés de Claude Parent. Alors là, on retrouve tout ce que vous venez de nous dire, Frédéric Miguerot, à savoir vraiment cette dimension tactile du corps, ce rapport sensoriel à l'espace. Et j'aime beaucoup cette idée que l'architecture passe nécessairement par les pieds.
Oui, tout à fait. Il faut pas opposer vitesse et mobilité. L'idée de mobilité reste centrale à partir du moment où elle est organisée par le corps, non plus comme une abstraction, hein, mais aussi avec sa dimension cognitive, perceptive, qui est centrale absolument pour Virilio. Donc c'est l'héritage, évidemment, comme on l'a dit, de la Gestalt théorie.
C'est un livre, il a écrit le manifeste Architecture Principe, Paul Virilio, il l'a écrit avec Claude Parent, donc c'est paru en 1966, vous l'avez réédité, c'est paru après en 1996. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce manifeste d'architecture oblique?
Oui, enfin, il a été réédité par les éditions de l'imprimeur. Hein, j'ai simplement fait un texte après avoir présenté ses travaux à la Biennale de Venise. C'est un manifeste de l'architecture radicale. C'est plusieurs numéros de revue qui présentent justement cette idée de mobilité, d'instabilisation, qui est à la fois une critique du modernisme et en même temps, disons, l'idée de fournir, de construire, d'élaborer une architecture pratique. Les implicites, ce sont des circulations habitables qui permettent de prendre conscience, hein, de réactualiser son rapport au corps. Mais elles seront toujours interprétées comme utopiques, et Virilio inventera un mot, comme toujours, c'est un inventeur de mots, il appelle ça le potentialisme, en l'opposant à l'utopie. Hein, donc, pour lui, l'utopie, c'est une vision, hein, c'est un aspect abstrait, dématérialisé. Le potentialisme, c'est à partir du corps, repenser l'espace et redéterminer une architecture, disons, à dimension humaine. On va le voir, je parlais de l'instabilisateur pendulaire, mais on le voit dans tous les dessins de Virilio. Alors c'est intéressant, c'est d'opposer les dessins très expressionnistes de Claude Parent, sublimes, hein, disons qu'ils sont peut-être un peu utopistes, et puis les dessins, disons, à la mine de plomb très tenue de Virilio.
Comment s'est fait la rencontre entre Claude Parent et Paul Virilio, qui viennent, il me semble, de deux milieux très différents et dont la collaboration a été presque fusionnelle, et puis ils ont rompu, il y a eu une rupture, et effectivement après Paul Virilio s'est plus tourné vers la pensée qui est restée spatiale, architecturale, d'ordre urbanistique, mais qui a moins créé en fait des formes et des lieux.
Là, il faut passer par des anecdotes, excusez-moi de...
Bah, je vous en prie, on est là pour retrouver la pensée de Paul Virilio, donc il faut pouvoir effectivement se le figurer.
Ils m'ont été rappelés ou par l'un ou par l'autre. Donc en fait, passant avenue du Maine, Paul Virilio voit un immeuble en construction, en béton brut, construit par Claude Parent.
Donc là, on est à quelle époque, à peu près, dans les années 60 ?
On doit être en 62, 61, 62, et il voit cet immeuble en béton avec un mouvement de façade. Il est absolument subjugué. Il veut rencontrer l'architecte. Donc d'abord, il fait la démarche pour acheter un appartement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter l'appartement. Il veut rencontrer l'architecte et ils se rencontrent. Et là, de façon totalement improbable, il décide de collaborer. Claude Parent, qui est lui-même animé par différentes ruptures, qui a justement créé des architectures un peu topologiques avec la maison Bordeaux-Lepec, avec des grandes vagues, ou la maison Druche, avec un cube basculé, qui sont assez critiques de l'architecture, disons, moderniste, va immédiatement intégrer Paul Virilio comme architecte, alors qu'il ne l'est pas, dans son agence. Et ils créent l'agence Architecture Principe. Et pendant 5 ans, ils vont collaborer tous les deux. Et ils accueillent dans l'agence de jeunes architectes, hein, comme Jean Nouvel, qui va rester 5 ans, ou François Seigneur, et d'autres. Cette agence c'est pas simplement un groupe d'architectes, hein, avec une publication abstraite, et ils ont une pratique. Et c'est là qu'ils vont construire, évidemment, Nevers, l'église, mais aussi un bâtiment pour Thomson Houston, et faire plusieurs études. Cette collaboration va amener Virilio véritablement à développer sa pensée de l'espace architectural et, évidemment, sa pensée de l'urbanisme.
Qu'est-ce qu'il va en garder, d'ailleurs, de ce passage, en fait, de cette collaboration avec Claude Parent ?
Je pense que c'est l'aspect pratique, une relation pratique et critique à l'architecture. L'idée de la vitesse vient à ce moment-là, je pense, elle est extrêmement présente.
Donc c'est d'abord le rapport à l'espace par l'architecture qui a fait advenir cette grande thèse dont on parlera demain sur la vitesse, cette critique de la vitesse.
Bien sûr, enfin critique de la vitesse et aussi compréhension de la vitesse. Une anecdote, chacun sait que Claude Parent était amateur de voitures de sport. Et donc Claude Parent, Paul Virilio lui demande de l'emmener en voiture sur le premier tronçon d'autoroute construit en France pour aller vers Orléans. Et il lui demande d'aller à 200 km/h, une expérience qu'il n'avait jamais fait. Et là, il passe le cap des 200 km/h et Virilio dit « mais ça ne me fait rien ». Il pensait véritablement que la vitesse amenait à un changement de la perception de l'espace.
À une forme d'inertie d'ailleurs.
Oui, voilà. Donc, ces expériences sont déjà présentes pour Virilio. Ce qui est important pour moi, c'est le basculement à partir de ce moment-là dans une pensée critique qui va amener évidemment à leur rupture en 1968.
Avec mai 68.
Avec mai 68, une anecdote encore, on voit, il y a un film absolument extraordinaire, donc il y a un film de Romer où on voit Parent et Virilio, architectes, ensemble défendre l'idée de, disons, de d'architecture oblique, hein, c'est assez extraordinaire, et puis il y a un film en 68 où on voit Virilio à l'Odéon, haranguer le groupe de l'Odéon pour défendre son idée de la ville, de l'architecture, de l'urbanisme. Et à ce moment-là, la rupture est totalement consommée avec Claude Parent. Et ce n'est qu'en 95, quand je vais essayer de les rassembler à nouveau pour l'exposition que je prépare, qu'ils vont, disons, retrouver ce qu'avait été pour eux l'expérience séminale d'architecture principe, qui restera déterminante pour Virilio.
Et pourquoi il y a eu rupture à ce moment-là, en fait, parce que l'idée de Paul Virilio aurait pu très bien se faire en collaboration avec Claude Parent.
Je vais prendre des mots simples. Vous avez d'un côté un anarchiste de droite, libéral, disons avec tout le et de l'autre côté un fils d'ouvrier catholique fervent et disons influencé par les courants situationnistes avec des lectures disons philosophiques disons très tenues. Donc il y a une espèce de contradiction totale, un mariage de carpe et de lapin invraisemblable qui fait que quand la crise de 1968 arrive, eh bien, la relation à Claude Parent s'arrête. Ce qui n'empêche pas, ce patrimoine commun qui a été le passage par architecture principe, qui fait que Paul Virilio va devenir professeur d'architecture, puis à un moment directeur de l'école spéciale d'architecture. Le point marquant, c'est la publication par Paul Virilio de l'insécurité du territoire. C'est-à-dire, c'est le livre qui fait la transition entre son expérience sur les territoires, c'est-à-dire sur l'impossibilité de clore un territoire pour le contrôler avec les bunkers du mur de l'Atlantique, et puis son travail de photographe, hein, il est aussi photographe, Paul Virilio, oui. À part entière, et puis le rapport qu'il va engager de façon critique à l'espace architectural, à la ville et à l'urbanisme. Et donc la sécurité du territoire, c'est le point de rupture véritable où Virilio devient véritablement philosophe, puis avec la suite des ouvrages comme l'espace critique qui vient après, et puis ses publications dans la revue Traverse. Et là, Virilio devient véritablement philosophe, mais tout en étant professeur d'architecture, hein, tout en restant professeur d'architecture.
Et que reste-t-il de l'architecture oblique aujourd'hui dans le paysage ? Alors, je ne parle pas forcément en termes concrets, mais même dans la manière dont on va construire, la manière dont les architectes vont avoir un certain rapport à l'espace. On a parlé de l'importance du corps, la dimension phénoménologique, le fait par exemple d'avoir des plans inclinés afin de réengager le corps dans l'espace. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est resté aujourd'hui dans l'architecture, ou alors vraiment c'était un moment de la création architecturale qui est passé ?
C'est un paradoxe absolu, c'est-à-dire au moment où l'architecture change, c'est-à-dire où il est possible de travailler, différemment avec l'apparition du numérique, l'architecture digitale va permettre de réaliser, avec beaucoup plus de facilité, cette idée d'une architecture morphologique. Je reste moi toujours frappé par le fait qu'il ait suivi les cours de René Thom, que Virilio ait suivi les cours de René Thom. Cette idée de morphogénèse sera très importante pour Virilio, mais elle devient effective avec l'idée de, les modèles topologiques deviennent effectifs avec l'apparition du numérique. Et des architectes comme, Zaha Hadid, par exemple, et puis toute une génération d'architectes va s'emparer de ces modèles, de cette capacité à créer des modèles morphotopologiques, jusqu'à Jean Nouvel, qui, quand il va livrer le bâtiment de la Philharmonie, va le dédier, avec ses pentes, hein, sur les toits, va dédier ce bâtiment à Claude Parent. Donc on retrouve évidemment dans l'architecture contemporaine un grand nombre d'architectes qui vont s'emparer de ce qui avait été initié par des dessins à la mine de plomb, et par une pensée très très accentuée de ces modèles topologiques vont s'en emparer par les facilités ouvertes par le numérique, numérique qu'évidemment Paul Virilio ne cessera de critiquer.
Merci beaucoup Frédéric Miguérou. C'est déjà la fin de ce premier épisode consacré à la pensée de Paul Virilio. Avoir raison avec Paul Virilio, merci beaucoup. J'annonce, je signale que vous avez co-dirigé l'exposition Aérodream sur l'architecture gonflable que vous pourrez aller voir début octobre à la Cité de l'architecture. Merci beaucoup Frédéric Miguérou. Et un grand merci à Anaïs Isbert, Thomas Jost à la réalisation et Dimitri Paz à la prise de son. Rendez-vous demain pour la suite d'Avoir raison avec Paul Virilio et demain, deuxième épisode, la dromologie ou la science de la vitesse.